Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui Maître Laurence Brosset, avocat associé au sein de son propre cabinet. Bonjour Maître.
Bonjour Myriam.
Je vais vous demander d'abord de présenter rapidement votre cabinet et puis on va discuter de sujets brûlants.
Alors, en deux mots, le cabinet a été créé en 2001. Au départ, plus tourné sur le contentieux pour des entreprises, mais également pour une société mutuelle. Et très rapidement, il a été impossible de ne pas écouter les attentes des clients et nous avons travaillé de plus en plus en amont, c'est-à-dire à la fois sur la phase contractuelle en marché public, en marché privé, mais également encore plus en amont pour répondre aux besoins de nos clients qui sont principalement des bailleurs sociaux et des promoteurs. Ce qui fait que nous avons créé un département en droit d'urbanisme.
Oui, donc de ce fait, pour répondre à cette demande, vous auditez très en amont, donc les PC avant d'être déposés. Est-ce à dire qu'il faut une expertise particulière pour pouvoir auditer les PC que les promoteurs et bailleurs souhaitent faire déposer par leurs équipes d'architectes, puisqu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué qu'il faut... Regardez toutes les règles du PLU avec vraiment l'œil de l'expert avocat.
C'est-à-dire qu'en fait, nous nous sommes aperçus avec nos clients que le nombre de recours prospérait de manière assez exponentielle et que pour essayer de minimiser le risque de recours, l'audit PC pouvait être un outil assez important et en tout cas assez perspicace. Donc, l'audit PC est mené donc à la faveur du client quelques mois, bien entendu, avant le dépôt, puisqu'il faut auditer avant de déposer. Et nous allons, en quelque sorte, laseriser le projet, puisque toutes les règles du PLU vont être reprises au regard du document. Et on s'aperçoit que les écueils, on les retrouve généralement sur les problématiques de hauteur, sur les problématiques d'alignement, etc. Et en tout cas, c'est un document qui va permettre une concertation entre la maîtrise d'œuvre, l'architecte et l'avocat, puisque chacun aura une lecture un petit peu différente. Mais c'est en rien un travail de censure, mais plutôt un travail qui permet à chacun de collaborer à la faveur du client pour faire avancer un projet et faire en sorte de minimiser considérablement le nombre de recours qui pourraient intervenir par la suite.
Donc ça veut dire que, imaginons qu'on dépose un permis après votre expertise, donc normalement il est un peu sacralisé par rapport au droit de l'urbanisme, de la construction et au PLU. Donc potentiellement, les recours peuvent être potentiellement liés à quel type de demande ? Qu'est-ce que les requérants peuvent vouloir à travers une attaque d'un permis ou à travers un recours ? Ça peut être obligatoirement abusif du coup ou est-ce que c'est beaucoup plus subtil que ça ?
À partir du moment où l'audit a été audité, où les plans ont été retravaillés de manière à effectivement être en corrélation, en corrélation vraiment avec l'application de la règle et parfois son interprétation qui pourra toujours être soumise au magistrat, c'est vrai que la problématique peut se poser parce que les gens pourront toujours, ou en tout cas les requérants, pourront toujours manifester un intérêt à agir qui n'est pas forcément aujourd'hui à ce stade bien encadré par les textes, puisque l'intérêt à agir est beaucoup trop étendu aujourd'hui et c'est un petit peu la difficulté. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un permis audité et qui est conforme, pour autant, les requérants pourront toujours intervenir.
Et donc du coup, vous privilégiez la médiation et la transaction, donc l'écoute des requérants.
Alors ça, c'est un outil qui fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que on essaie de rencontrer les requérants, on essaie de leur faire comprendre que la réalisation d'un programme immobilier n'entraîne pas systématiquement un effet d'aubaine, notamment financier pour eux. Et on va à leur rencontre, on essaie de protocoler au maximum et bien entendu avec quelques contreparties qui ne sont pas forcément des contreparties financières, mais il peut y avoir des contreparties qui sont la réalisation d'un mur végétal, qui sont des plantes, des plantations de tiges, qui sont des petites avancées qui vont permettre en tout cas de favoriser la bonne entente avec d'éventuels requérants.
Alors une fois que, imaginons que la médiation et donc l'écoute n'a pas été suivie d'effets positifs, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est la cristallisation des moyens et du coup la requête en indemnisation L607?
Alors en fait, ça, c'est trois sujets qui sont importants et qui sont aujourd'hui complètement d'actualité. Et je vous en parlais tout à l'heure. On a aujourd'hui un problème qui est lié à l'intérêt à agir de nos requérants. Aujourd'hui, c'est l'article L600-1-2 du Code de l'urbanisme et qui, selon moi, sont effectivement des critères qui ne sont pas assez restrictifs, puisqu'ils ne sont pas liés au droit réel. C'est-à-dire que vous avez un titulaire d'un bail, un titulaire d'une promesse qui peut engager un recours et en produisant notamment des documents qui ne sont pas du tout contemporains de l'action. Et ça, effectivement, ça pose un réel problème, puisque le juge va devoir examiner l'intégralité de ces moyens-là. Et aujourd'hui, le but du jeu pour nous, d'ailleurs, est de ne pas forcément soulever des irrecevabilités qui sont liées au défaut d'intérêt à agir, parce que ce qu'on attend du magistrat, c'est qu'il statue sur le fond. Donc, on perd beaucoup de temps à essayer d'examiner tous ces moyens-là, alors qu'in fine, si on encadrait l'intérêt à agir avec des critères beaucoup plus restrictifs, je pense que le magistrat gagnerait beaucoup
Donc,
de temps.
Donc, du coup, on peut limiter la temporalité d'un recours et dire, par exemple, qu'on va... C'est un peu ce que la réforme Macron, souhaite mettre en place, c'est-à-dire une réduction à 10 mois, 11 mois, 12 mois.
Voilà. Alors, ça s'appelle la cristallisation des moyens, qui était déjà proposée, qui a été portée par le président Laboutoul. Maintenant, il faut quand même savoir que concrètement, ce n'est pas appliqué de manière égale par l'ensemble des tribunaux. Vous déposez une requête ou vous demandez au magistrat la cristallisation des moyens, c'est-à-dire d'encadrer dans le temps l'intégralité des moyens qui vont être défendus. Et on constate, en tout cas à travers notre expérience professionnelle...
Le magistrat est libre de réduire ou pas ce temps.
Qu'en fait, certains tribunaux répondent favorablement, d'autres tribunaux ne répondent pas. Donc, en définitive, c'est un très très bon moyen. En revanche, il faut que ce moyen-là soit appliqué de manière efficace par les magistrats, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ça veut dire que même si on a une réforme, ce n'est pas une obligation pour le magistrat de l'appliquer. Et donc, du coup, l'État peut vouloir réduire ses délais, mais ce n'est pas pour ça que, malheureusement, ça sera suivi des faits.
Alors voilà, c'est un petit peu le constat entre les décisions du législateur, donc aujourd'hui avec la réforme Macron et un décret qui est annoncé dans les semaines à venir pour réduire le délai de recours, en tout cas l'analyse de la procédure et un jugement dans les 10 mois. Pour autant, il n'y a pas d'application concrète par les magistrats des tribunaux administratifs, on peut se poser des questions sur la pertinence des mesures qui sont prises, mais qui ne sont pas forcément appliquées.
Et donc la requête en indemnisation, vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Oui, bien sûr, ça c'est un très beau sujet, L600-7 du Code de l'urbanisme. Nous en avons déposé depuis 5 ans systématiquement avec aucun résultat de la part des tribunaux. Ce qu'on constate, c'est que le magistrat, au terme de ses jugements ou de ses arrêts, va se retrancher derrière l'instruction sans aucune motivation. Et dans certains cas où des procédures transactionnelles ou en tout cas des accords auront été tentés avec les requérants avec pour le maître d'ouvrage, en tout cas, des frais importants engagés dans le cadre de modifications de programme. Ce que je trouve assez inéquitable, c'est que les frais de justice qui vont être accordés à la faveur du maître d'ouvrage ou du promoteur sont insignifiants au regard...
Oui, au regard des engagements financiers.
Au regard de l'ensemble des démarches et des frais et des études qui auront été engagées pour les requérants. Donc là, effectivement, lorsqu'on vous accorde 2000 euros de frais de justice et que vous avez un promoteur qui a dépensé près de 500 000 euros d'études pour modifier un projet... Il y a quelque chose qui ne va pas.
Bon, ça veut dire qu'il y a encore là-dessus un peu de progrès à faire.
Tout à fait.
Je voulais qu'on parle du référé préventif. On n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais juste en deux minutes, est-ce que ça peut aider à avoir un meilleur dialogue avec les voisins, à anticiper sur éventuellement certains recours? Qu'en pensez-vous?
Alors, lorsque le référé préventif démarre, forcément, vous êtes propriétaire du foncier, donc les recours sont purgés. En revanche, pour moi, l'expert judiciaire est véritablement un vrai facilitateur pour le démarrage de ces travaux. Il vient pondérer les problématiques qui systématiquement se posent au stade de la construction, qui sont les tours d'échelle, les débords de fondation, les rehausses de cheminée. Et c'est pour nous, en tout cas pour avancer...
C'est une manière d'apaiser un petit peu.
Voilà, je pense que c'est pour nous un point très important pour que notre chantier se déroule bien. Et comme je le disais, nos experts sont vraiment des facilitateurs pour faire en sorte d'expliquer aux voisins la manière dont un chantier se déroule et faire en sorte que tout ça se passe bien et dans une ambiance plutôt apaisée.
Merci maître de cette intervention. Je pense que ça nous a donné un éclairage extrêmement intéressant pour voir de quelle manière on peut essayer d'apaiser les relations, en tout cas de répondre en tout cas aux demandes à la fois des requérants et des maîtres d'ouvrage pour avoir un acte de bâtir apaisé. Merci maître.
Merci Myriam.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.